Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Le livre que je vous propose aujourd'hui, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée de par son écriture, de par l'histoire, de par les circonstances, de par le pays dont nous allons parler. Et puis j'ai découvert un écrivain à qui j'ai dit hors micro qu'il fallait continuer à écrire. Une écriture intelligente, vivante et aussi, je dirais, pleine d'humanité et plein de souplesse et de tendresse, avec des personnages attachants. Alors, eh bien, sans plus attendre, nous allons aller à sa rencontre, faire sa connaissance et puis aller à la rencontre de ses personnages et de ce livre. Bonjour Guillaume Cyr.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour ce roman avant la longue flamme rouge aux éditions Kalman Lévy. Alors tout d'abord, on va un petit peu parler de vous. Vous êtes professeur d'université à Toulouse, c'est ça ?
Exactement, voilà. Maître de conférence. Exactement.
Maître de conférence à l'université Capitole, c'est ça ?
Toulouse. Exactement.
Capitole, ok. Voilà, bah c'est un endroit, Toulouse, que je connais bien parce que je suis moi-même un petit peu plus en bas vers l'Ariège. Voilà, donc ça me touche d'autant plus. Alors, ce livre, on va situer un petit peu l'action. C'est 1972 au Cambodge, hein, Cambodge au feu à sang, avec des personnages très attachants, une famille, des parents avec un petit garçon et une petite fille. Et ça va être l'histoire de cette famille, l'histoire aussi de ce petit garçon, un petit garçon très particulier. Mais déjà, situez-nous. Alors, on va situer un petit peu évidemment l'histoire. Alors moi, une chose sur laquelle je voulais venir aussi, c'est que votre livre, le titre de votre livre vient d'une phrase d'Euripide sur les trois hyènes.
Oui, tout à fait. Euripide, chez les Grecs, c'est vraiment celui qui s'est le plus intéressé à ce qui s'est passé une fois que la guerre de Troie était terminée. Qu'est-ce que deviennent les personnes, qu'est-ce que deviennent les femmes justement qui sont réduites en esclavage, les soldats qui sont pas morts, est-ce qu'ils sont faits prisonniers, rendus esclaves, donc c'est toujours un peu le il donne la voix à ceux que la grande histoire avait l'air d'oublier et surtout il nous montre ce qu'est Troie après la guerre de Troie ravagée.
Oui.
Et je trouve que dans ces cendres, dans ces ruines, est-ce qu'on est encore des êtres humains? Est-ce que on recherche les autres, ceux qu'on a perdu de vue, ceux qui étaient en dehors de Troie quand les murs se sont fermés? On imagine tous ces personnages qui tout d'un coup doivent retrouver les autres, rechercher une vie. Et c'est vrai que c'est un auteur que j'aime beaucoup pour toutes ces raisons-là. Et avant la longue flamme rouge, ça vient justement de cette pièce qui s'appelle Les Troyennes,
oui,
de cette tragédie où on dit comme ça, Troie avait péri, il ne restait plus rien sinon la longue flamme rouge.
Oui.
Et moi, ce qui m'intéressait là, c'était de revenir avant et de se dire, une fois que tout a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Et qu'est-ce qui s'est passé, pas simplement du point de vue historique, mais d'abord et surtout du point de vue humain, du point de vue des actions, du point de vue des inquiétudes, des recherches, de l'urgence, en fait, de tout ce qui a précédé, qui maintenant n'est plus qu'une longue flamme rouge qui flotte sur une ville détruite.
Alors, votre livre, c'est un roman, mais tiré de faits réels, d'histoires réelles, les personnages, où se situe la réalité des choses?
Ben, elle se situe partout et nulle part. C'est-à-dire que c'est évidemment, alors effectivement, plutôt qu'évidemment, quelqu'un que j'ai rencontré, qui s'appelle Sarah Wood, m'a raconté sa vie bouleversante. Il a survécu à cette guerre civile entre 69 et 75, cambodgienne. Il s'est enfui juste avant que les Khmer Rouges rentrent dans Phnom Penh. Il a réussi à s'enfuir. Il a pris 4 balles dans le corps quand il était enfant. Il m'a raconté tout ça. Il y a bien longtemps maintenant, plus de 15 ans. Et j'en ai fait un roman. C'est-à-dire que j'aime bien d'ailleurs cette expression, j'en ai tiré un roman. C'est tiré d'une histoire vraie. Parce que j'en ai extrait finalement ce qui me semblait être la vérité dans ce qu'il me racontait, de ses sensations, de ses... des parfums, de l'urgence justement, de l'action en fait, et j'en ai à partir de ça et de certaines lignes narratives que son récit me donnait, j'ai inventé, réinventé pour pouvoir créer un non pas justement un récit ou même pas un roman historique, mais vraiment un pur roman, une pure histoire, oui, avec une psychologie des personnages et ce petit bonhomme, à qui je oui. connais aussi le nom de Sarabout,
oui.
qu'on va suivre dans l'action, comme tout ça, qui cherche ses parents dans la forêt, qui doit éviter les milices, Khmer Rouge, les soldats républicains, mais camés à mort qui font n'importe quoi, les tigres, les sables mouvants, qui doit, comme ça, retrouver la source, quoi, c'est-à-dire ses parents, la sécurité, sa sœur, et cette vie que la guerre vient de lui enlever.
Lui arracher, oui. En lisant votre livre, il y a des images qui me sont venues à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre avec Sam Waterston. Sam Waterston, c'est un journaliste américain. Il se prend d'amitié pour un jeune journaliste vietnamien. Et ils vont sauver un petit garçon et il va combattre l'ennemi, franchir la jungle pour finalement arriver à retrouver la famille de ce jeune garçon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il n'y a pas du nom du titre, c'est avec Sam Waterston.
Il me semble qu'on en a déjà parlé, je n'ai pas lu celui-là.
C'est un film, souvent.
Que ce soit d'ailleurs la guerre du Cambodge ou une autre guerre, enfin, il y a quelque chose là-dedans qui est toujours la même chose, qui est toujours répété dans les guerres. C'est-à-dire que les guerres, dans un certain degré de l'horreur, se ressemblent toutes et sont le mieux comprises à travers les yeux comme ça de ceux qui cherchent à retrouver quelqu'un plutôt qu'à tuer les autres.
Oui.
Et tout d'un coup, c'est le point de témoignage ultime et c'est le point romanesque, le plus beau, parce que quand tout le monde cherche à détruire, vous cherchez
à construire, à reconstruire. Tout à fait, oui.
Et que ce soit chez les Grecs, il y a 3000 ans, au Cambodge, il y a 50 ans, en Europe,
il y a 70 ans, c'est 75 ans, oui, bien sûr.
Dans un certain degré de l'horreur, les sentiments et finalement même le décor, quelque part, les regards, les mouvements vont se ressemblent et la littérature à ce degré-là, du coup, je pense, dit un peu toujours la même chose. Mais après, il y a évidemment la patte personnelle
bien sûr.
Mais vient trouver là et dans le roman quelque chose qui est raté par les historiens, parce que les historiens ne peuvent pas, c'est pas à ça qu'ils s'intéressent, c'est pas cette espèce d'ambiguïté terrible et cette urgence qui en revanche passionne les romanciers parce qu'elle est le moteur même de l'action, des péripéties, des personnages, de l'incompréhension. En fait, les romanciers rendent compte de l'incompréhension quand les historiens eux essayent d'expliquer.
Oui. Moi, ce que j'ai ressenti aussi, cette formidable instinct de survie dans votre écrit, dans le mouvement de vos personnages et notamment de Sarabout, de ce petit garçon, cet instinct de survie formidable qui fait que on peut aller au bout de nous-mêmes et régler certaines choses, comme vous disiez, là où certains tentent de détruire, d'autres cherchent à reconstruire. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie et c'est ce que j'ai ressenti assez fortement dans votre livre.
Oui, ce qui m'intéressait en l'écrivant, c'était de trouver justement ce point où vous êtes absolument désespéré, vous vous dites qu'il n'y a plus aucune raison vraiment d'espérer, de vivre du coup, et pourtant, malgré tout, et presque malgré vous, quelque chose en vous refuse de mourir, refuse de désespérer, refuse d'arrêter de croire. Et c'est cette chose-là, ce sentiment, il est miraculeux parce qu'il a l'air de pas venir de vous, il est contre toute logique. Et pourtant, il est la logique même de la vie. C'est-à-dire qu'il est ce qui dans la vie refuse d'abandonner et qui vous mène à malgré tout, à chercher, à rechercher, à aller partout, à bouger dans les sables mouvants, à pas les laisser vous prendre. Et je voulais que mon personnage, comme ça, qui croise justement des tigres, des sables mouvants, des miliciens, qui n'a aucune chance, des charniers, malgré tout, et malgré lui-même, s'accroche à cette vérité qu'il y a encore quelque chose peut-être à sauver, et que cette chose-là mérite qu'on reste en vie, qu'on la cherche à tout prix, et qu'on continue à mériter la vie qui, à nous est laissée quand elle est prise à tous les autres.
Alors donc, Sarabout, donc il a une petite sœur aussi, Dara. Ses parents travaillent, le père est au ministère de l'Agriculture, je crois, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Il enseigne.
J'ai appelé c'est la chambre de
la chambre d'aculture. Voilà, oui. il enseigne. Il y a aussi la maman. C'est une famille unie. Et puis l'indicible va se produire. Phnom Penh assiégé. Ils vont être séparés.
Oui. La sécurité, en fait, ces enfants-là, Dara et Saravout, oui. Donc Saravout qui est mon personnage principal,
voilà, et Dara, sa petite sœur,
ont vécu dans une sécurité qui leur semble normale, parce que ce sont des enfants, ils ont grandi avec leurs parents, comme ça, dans un environnement un peu bourgeois, vous voyez, post-colonial, mais la mère est professeure, de français, au lycée français, le père est fonctionnaire, ils sont dans un monde de culture, de sécurité. Mm-hmm. Et tout d'un coup, un monde de sécurité qui, à nous, nous est finalement plutôt familier, en tout cas, moi, j'ai grandi dans ce genre de sécurité-là, et tout d'un coup, et ça, évidemment, toutes les guerres civiles, c'est ce que ça crée. Et pour les enfants, c'est absolument incompréhensible. Tout d'un coup, ce monde de sécurité-là, total, va être immédiatement, en quelques heures à peine, remplacé par l'insécurité la plus absolue, l'ambiguïté, c'est-à-dire est-ce que les autres sont morts ou pas, donc il faut les chercher. Tout le monde court dans tous les sens, tout le monde tire, on ne comprend pas pourquoi, et tout le monde règle ses comptes. Et du coup, c'était important de les voir quand même, de ne pas commencer par comme ça, dans cette insécurité-là, de commencer d'abord, de bien montrer comment la bascule se fait. Parce que la bascule, je ne veux pas être un prophète de malheur, évidemment, mais la bascule peut avoir lieu un peu à tout moment. L'histoire le montre. C'est que vous êtes tout d'un coup au Bataclan en train d'écouter de la musique qui vous plaît avec des amis, et vous êtes dans une sécurité totale, dans une ville en sécurité qui est la vôtre, et vous avez grandi là, et puis tout d'un coup, en un instant, tout bascule dans la terreur et l'horreur, et la survie, justement. Et je voulais que cette bascule-là, cette impulsion qui donne toute son énergie ensuite au roman, soit ressentie comme ça. Parce que je pense que, là encore, il y a quelque chose de très vrai que les historiens ont beau commenter. C'est dans le roman qu'on le ressent vraiment, que ça devient vivant, quoi, et qu'on voit comment ça peut basculer d'un seul coup.
Alors, il a aussi, peut-être l'avons-nous tous un peu, mais chez lui, j'ai trouvé ça très fort, chez Saravout, c'est ce monde intérieur qui est fait de lumière, qui est fait d'une sorte de magnificence, comme ça, d'espoir. Et puis, quand arrive pour lui, ce qui est incroyable, ce qui est indicible, ce qui est affreux, ce monde intérieur un petit peu va s'écrouler, mais malgré tout, il en a fait une force. Et cette force-là, elle va quand même subsister, malgré tout.
Oui, c'est ça. Saravout, sa mère lui racontait des histoires. Oui. Alors,
c'était des histoires sans images, sur des livres un petit peu comme ça, un petit peu écornés, les pages un petit peu abîmées, sans images. C'était toujours. Il était une fois, par exemple, elle dit à un moment donné, il était une fois dans un château fort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un château fort? Voilà, c'était des choses comme ça.
Oui, il imagine et il se construit comme ça tout ce qu'il appelle finalement le royaume intérieur.
Oui.
Et qu'il dissocie du coup, qui est sa vie propre, personnelle, intime, ses rêves, son imagination, mais qui a quand même sa logique, qui peuple comme ça de châteaux, qu'il imagine être des châteaux, mais c'est lui qui imagine tout ça, de montagnes. On lui raconte l'Odyssée, il met Ulysse, il met Achille, on lui raconte Peter Pan, il met la fée Clochette et le capitaine Crochet, on lui raconte toutes les histoires du bouddhisme Theravada, il met ces petits dieux-là, l'histoire notamment du prince Vesantara, enfin, il y a tous ces personnages.
Et lui-même met tout ça, lui il les met en image dans sa tête.
En image dans sa tête. Et l'extérieur, il appelle ça l'empire extérieur.
Et
donc, il y a cette vie personnelle, intime, et dehors, il y a la vie qu'il partage avec les autres, la vie sociale, on pourrait dire. Et du coup, évidemment, dans l'action, dans la guerre, il va en permanence se servir de cette vie intime pour comme d'un refuge. Mais ce refuge n'est possible que jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que malgré tout, de temps en temps, il faut quand même, vous voyez, même les grands mystiques, ils ont beau avoir une vie intérieure, le château intérieur, disait Thérèse d'Avila, très riche, à un moment ou à un autre, ils doivent manger ou aller aux toilettes.
Bien sûr.
Mais lui, c'est un peu pareil, mais pendant la guerre, c'est-à-dire que il a cette vie intérieure très riche qui lui sert de refuge, mais dans laquelle il ne veut pas non plus se réfugier totalement et pour de bon. Sinon, ça serait quand même abandonné. Le royaume intérieur, malgré tout, même s'il est dissocié de l'empire extérieur, ne peut être possible et ne peut exister que si dans l'empire extérieur, on réussit à se nourrir, à trouver une certaine sécurité. Et donc, ce refus refuge peut aussi être un piège, parce que tout d'un coup, il peut être la tentation de tout abandonner parce qu'on croit qu'on va totalement s'y réfugier et du coup qu'on baisse les bras. Donc, il essaye à la fois de le construire, de le maintenir, de le reconstruire, pendant qu'en moment, en même temps, dans l'empire extérieur où les éclats d'obus sont partout, les balles sont tirées dans tous les sens, le danger, justement, la forêt qui est extrêmement dangereuse, et ben, dans ce monde-là, dans cet empire extérieur, c'est la course pour retrouver sa famille, pour vivre, pour survivre, et le royaume l'aide, et en même temps, le royaume le tente, quoi, pourrait servir d'échappatoire, a l'air de pouvoir en servir.
C'est vrai. Alors, nous allons retrouver nos héros et Guillaume Cyr dans un petit moment. Nous allons faire une petite pause musicale dans un royaume tout à fait intérieur et extérieur. À tout de suite. Sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec notre invité Guillaume Cyr avant La Longue Flamme Rouge aux éditions Kalman Lévy. Alors, il faut aussi dire que notre petit garçon, Zarbout, il a 11 ans, sa petite sœur a 9 ans, et moi j'ai quand même eu l'impression que ce petit garçon à 11 ans, même si on lui raconte des histoires, il se fabrique un monde intérieur, il se fait lui-même les images des histoires qu'on lui raconte, privilégié dans un monde protégé, et puis bien sûr tout va voler en éclats. Je l'ai trouvé terriblement mature, réfléchi, intelligent, au-delà de l'adversité, plus fort que tout la vie, et puis surtout pour sauver sa vie et celle des gens qu'il aime. Mais une très grande maturité pour ce petit garçon.
D'abord, j'aime bien votre adverbe, là, terriblement mature, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de terrible dans sa maturité.
Oui,
alors, il reçoit une balle dans la tête, il survit dans des conditions un peu spéciales, il est soigné par la vieille dame qui réussit à recalcifier les os, et ensuite il part à la recherche donc de sa famille dans la forêt. Et c'est vrai que dans cette recherche-là, où il réussit à organiser sa recherche, il a des points de fixation, il cherche par où rentrer en ville, quand il veut rentrer dans Phnom Penh, en se disant qu'ils sont rentrés dans Phnom Penh, mais Phnom Penh est assiégé, comment on rentre dans une ville assiégée ? Pense net, parce qu'il a un objectif précis. Et c'est peut-être ça qui crée cet effet de maturité chez un enfant qui reste un enfant. Mais ce qui crée aussi l'effet de maturité, c'est qu'autour de lui, les adultes se tirent dessus.
Mais oui.
Pour des raisons qui ont l'air d'être de raisons, elles, totalement immatures, bêtes. Comment on peut en venir là ? C'est la folie des hommes. Et dans la guerre civile, les adultes ont l'air d'enfants et les enfants sont matures. Parce que eux, c'est eux qui restent les seuls à être cohérents. C'est-à-dire que chercher ses parents, finalement, c'est la plus grande cohérence possible, et c'est la grande maturité, c'est-à-dire d'aller rechercher la sécurité. Et pendant ce temps, tous les autres qui tirent et qui s'entretuent sans vraiment être capables de tout à fait expliquer pourquoi, le pourquoi échappe à tout à ce moment-là, c'est la haine farouche, c'est l'animalité, mais c'est aussi la grande, finalement, immaturité. Je pense que dans l'action de la guerre civile, les êtres les plus matures sont sans doute les enfants, et à tous les coups. Donc oui, mon personnage est particulièrement mature parce que je l'ai doté de cette vie intérieure et que c'est lui qu'on suit. Mais je pense que il y a là-dedans une vérité qui concerne tous les enfants dans la guerre. L'enfant dans la guerre, il cherche ce qui doit être cherché et il est le seul à rester logique parce que il est le seul à savoir que cette guerre n'a aucun sens.
Un enfant va chercher la vérité tout simplement aussi.
La vérité, la sécurité, l'amour, l'amour même avant la vérité, mais c'est l'amour, la vérité. Donc c'est pour ça que dans cette forêt, au milieu de tous ces pièges-là, il continue à chercher ce qui doit être cherché, c'est-à-dire l'amour qui sera porteur de vérité, de sécurité, de beauté, mais il faut trouver l'amour des autres et l'amour d'abord de ses parents. Et donc il cherche absolument...
L'amour des autres dans un monde très bousculé et dangereux, et très dangereux.
Oui, mais où il sent et où il refuse de désespérer, il sent que l'amour des autres existe encore, au moins chez ses parents. Et s'il les retrouve, tout sera résolu.
Tout sera résolu, bien sûr.
Il a cette certitude dans cette certitude-là, il y a probablement une grande vérité. Quand vous dites il cherche la vérité, c'est peut-être cette vérité-là qu'il cherche. Il cherche la vérité que seul l'amour porte, et l'amour des parents en particulier quand on est un enfant.
Alors dans cette forêt, on vit ces épreuves avec lui, on le suit, on voudrait l'aider, on voudrait pouvoir lui tendre la main, on voudrait partager ses angoisses. Moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que on a l'impression que dans cette forêt vous y étiez. Alors bien sûr, c'est vous l'écrivain et vous êtes attaché à ces personnages. On sent que ce petit garçon, vous le prenez à bras le corps et vous voudriez l'aider, mais bon, il faut aussi qu'il avance seul, qu'il aille vers sa propre vérité et sa recherche. Mais ce que j'ai aimé, c'est la description. C'était détaillé. On se sent à la forêt, on ressent une angoisse, vous savez, comme un film catastrophe. On voit les choses défiler devant les yeux, on crie s'il arrive quelque chose, on soupire de soulagement si les choses se passent pas trop mal. Et moi, j'ai senti cette respiration et je me suis dit, Guillaume Cyr, il est dans cette forêt.
Alors ça me fait d'abord évidemment plaisir que vous me disiez ça, parce que c'était mon objectif. J'ai été aidé d'ailleurs par des botanistes là-bas de la faculté de pharmacie de Phnom Penh et du laboratoire Pierre Fabre, qui ont un partenariat là avec cette faculté-là, qui m'ont aidé en allant dans la forêt, en m'expliquant comment ça fonctionnait. Donc j'ai pu comme ça chercher des mots. Et je pense, et pourquoi c'est du point de vue de l'écriture, c'est très important pour moi que ce que vous dites, parce que c'est mon objectif. Je pense que dans la langue, dans les descriptions d'un roman, il doit y avoir des racines. C'est-à-dire que on peut pas dire simplement il y avait un arbre, une rivière. Mm-hmm. En fait, un arbre ou une rivière, c'est très conceptuel. C'est, ça n'a pas grand-chose. Une rivière, un arbre, quand on le voit, ça a une texture, ça a une couleur, ça a un goût, ça a un parfum. Ça
un bruit.
Ça a quelque chose.
Il y a le bruit.
Y aller ou pas. La rivière aussi, elle a une couleur, elle a un bruit, elle a un son. Il faut absolument rendre ça pour qu'il y ait de la... Vous voyez ce qu'en cuisine, le cuisinier appelle la mâche, qui est quelque chose sous la dent. Et quand on lit un roman, moi je veux qu'il y ait justement un texte. Il faut que ça ait une texture. Il y a quelque chose là du tisserand, du tissu, de l'épaisseur. Et la crédibilité de l'ensemble, c'est le fait comme ça qu'il y ait ce sentiment, cette sensation de réel, n'est possible que parce qu'on vient trouver des mots qui disent quelque chose de sensuel, en fait. Qui font appel au sens et non pas simplement qu'à l'esprit, au concept, à l'imagination vague et non incarnée. Il faut absolument que dans le roman, les personnages n'existent que parce que tout d'un coup, il y a l'adjectif qui les mène quelque part, qui les plante devant vous, quoi.
Alors, au-delà de la rencontre de réel avec Sarah Pout, qui a ensuite donné l'histoire du petit garçon, et de ces aides que vous avez eues concernant la descriptive de la forêt, de la substance, vous disiez des odeurs, des couleurs, est-ce que vous avez également fait des recherches sur le conflit du moment?
Alors, oui, bien sûr, sachant que moi, l'objectif était justement pas du tout d'écrire un roman historique, vous savez, dans lequel il y a le côté un peu encyclopédique sur ce qui se passe. Parce que en fait, ce côté encyclopédique, il n'est possible dans un roman historique que parce que après coup, les historiens ont fait leur travail et le romancier a lu le travail des historiens. Mais en fait, sur le moment, dans une guerre civile, quand il y a des gars qui quand il y a des pétoirs qui claquent derrière une rangée de palmiers, vous n'allez pas voir si c'est les rouges ou les bleus qui tirent. Vous partez en courant dans l'autre sens. Et moi, c'était de ça dont je voulais rendre compte. Mm-hmm. Donc évidemment, je me suis renseigné, parce que quand même, je voulais savoir ce qui se passait. Il y a des ouvrages brillants, il y a même la pièce de théâtre de Hélène Cixous, qui est en fait très complète, qui explique beaucoup de choses. Je me suis renseigné sur tout ça, sur cette guerre civile, donc juste avant les Khmers rouges, en 69-75, sachant que je voulais pas pour autant renseigner complètement le lecteur. C'est-à-dire que Sarah Woods, quand vous avez 10 ans et que vos parents se font tuer dans une guerre civile ou qu'en tout cas ils se font tirer dessus, vous savez pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que votre père a fait de la politique? Est-ce que c'est parce qu'on est jaloux de votre père? Est-ce que c'est parce que on l'a dénoncé à juste titre ou pas? Enfin, en fait, votre seule vérité, ça devient qu'il y a quelqu'un avec un fusil qui tire sur celui qui est pour vous l'emblème même de la sécurité, de l'amour, de qui vous protège. Et donc, je voulais quand même d'abord, mon objectif était d'abord de rendre compte de ça et du chaos, de l'incompréhension de cette guerre civile qui là-bas même a été assez mal comprise. C'est-à-dire quand vous allez là-bas, vous leur posez des questions, ils vous disent « Ah oui, la guerre civile, c'est vrai, c'était terrible, on n'a pas trop compris, mais au moins on se déplaçait, on allait de buisson en buisson, on pouvait se cacher, on pouvait s'enfuir. » Alors que la paix, en 75-79, c'est-à-dire la paix des Khmers Rouges, le règne assassin de la paix des Khmers Rouges, là, vous étiez à un endroit, dans un camp, vous ne pouviez plus courir de buisson en buisson, et il y avait une sorte d'immobilité, d'impuissance qui a été vécue là-bas de façon bien plus terrible.
Et une grande violence.
Exactement. Et une immense violence qui n'est pas la même que celle de la guerre civile. Et du coup, la guerre civile, même d'ailleurs dans les fictions, dans les livres d'histoire, passe un peu à l'as, on en parle moins de cette guerre civile de 69-75, où pourtant les Vietnamiens du Cambodge ont été massacrés.
C'est vrai.
Il faut savoir ça, que là-bas, il y avait des Vietnamiens qui parlaient vietnamien, qui étaient d'origine vietnamienne, mais qui n'étaient pas des Vietnamiens du Vietnam. Ils n'avaient pas la nationalité vietnamienne. Des Vietnamiens du Cambodge. Ils étaient cambodgiens.
Cambodgiens.
Du point de vue de la nationalité. Et quand Lon Nol a pris le pouvoir, il a organisé le massacre
des Vietnamiens.
De ces Vietnamiens du Cambodge. Ce qui est très peu su, ça. Mais bon, donc évidemment, je me suis renseigné. Il y a dans le roman, ici et là, on voit ça, parce qu'on est quand même au milieu de cette guerre civile-là.
Tout à fait, complètement.
Mais je donne pas plus non plus. Je voulais pas entrer dans le discursif, quoi, dans l'explication, dans les témoignages historiques. Vous voyez, je voulais qu'on reste avec ce petit bonhomme qui cherche ses parents, qui s'est fait tirer dessus dans ce chaos-là, et qu'on sente surtout le chaos plutôt que... qu'on ait des explications. Vous voyez, je me méfie beaucoup dans le roman, moi, du discursif. Pour moi, un roman, c'est du narratif, de l'action, du dialogue et du descriptif, et pas du discours. Le discours, c'est, il faut écrire des essais dans ce cas-là.
Alors, après cette jolie écriture et ce joli roman, est-ce que vous avez d'autres projets, puisqu'il faut continuer, je suppose que ça doit fourmiller dans votre tête d'universitaire.
Je travaille à un roman qui se passe dans cette fois-ci de plus proche de nous, dans les Corbières, vous voyez.
Jolie région aussi, très jolie région.
De désert, de jolie région aussi, où il s'est passé tant de choses qui sont très... Et entre dans les montagnes d'Alaric, là, entre Carcassonne et Narbonne. Et donc avec dans un château que j'invente complètement, une histoire plus proche de nous dans l'espace, mais j'espère aussi exotique et incarnée dans les personnages. Donc ça, c'est le roman sur lequel je travaille maintenant. Puis après, j'écris sur un blog, là, j'écris pas mal de poèmes. Enfin, je continue à écrire tout le reste.
C'est très bien.
Tout ça est une mécanique d'ensemble.
Tout à fait. Pour conclure, vous avez pu laisser facilement Sarah Pout. Moi, j'ai eu du mal à le quitter. J'ai laissé continuer, vivre sa vie. Vous avez eu un petit peu de mal à le laisser?
Franchement, ça a été vraiment dur, parce que c'est vrai que c'est un roman qui a été un grand investissement. Alors déjà, je suis content de le retrouver à chaque fois que j'en reparle.
Bien sûr, t'as fait.
Vous me faites un peu me replonger là-dedans. Et c'est vrai que je me suis... On donne de soi quand même. Et j'ai mis du temps à réussir à l'écrire comme je voulais l'écrire. Donc ça a été pour moi très important. Il a fallu que je relève la tête aussi, que j'ai réussi à passer à autre chose, que Sarah Wood, c'est celui dont je me suis inspiré, il existe, il vit à New York où il joue aux échecs. Là, je vais lui apporter en avril, je pars avec mon fils qui a 6 ans on va lui apporter
le livre,
le roman, oui. Pour qu'il l'ait, quoi. Mm-hmm. Je l'ai pas vu depuis presque 15 ans, donc tout ça continue à faire vivre ce qui a été pour moi cette aventure-là. Mm. Mais le sommet, malgré tout, de cette aventure-là, ça a été quand même de l'écrire, parce que c'est la formuler, c'est formuler quelque chose, c'est le ressentir et le comprendre. Comme jamais ce serait possible autrement. Mmh. Et pour moi, il a fallu quand même que je réussisse à m'en extraire ensuite. Ce qui a mis un peu de quelques mois là, tout avait ce goût-là. On n'avait pas assez de goût quand ça n'avait pas ce goût-là. C'est bon, maintenant je suis dans d'autres projets et j'ai réussi.
Ouais, c'est bien. En tout cas, c'est une belle aventure. Avant La Longue Flamme Rouge aux éditions Calman Lévis, c'était avec Guillaume Sirgeau. Je vous remercie infiniment. C'était un vrai bonheur de vous recevoir. Je serai heureuse de vous retrouver à ce micro pour d'autres aventures littéraires avec vous.
Merci à vous de m'avoir invité. J'étais très heureux de parler de tout ça.
Merci beaucoup. Avant La Longue Flamme Rouge, aux éditions Calman Lévis, c'était avec Guillaume Cyr. Merci et à très bientôt. Au revoir.